À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Retrouver la source intérieure », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Durant l'émission précédente, nous avions envisagé la façon d'aborder notre être dans toutes ses dimensions. Et déjà, je vous avais dit qu'il y a une façon d'être présent au présent à travers notre corps. Nous y reviendrons encore à ces questions-là dans cette émission et dans les émissions qui vont suivre parce que si l'on veut être fidèle à l'incarnation, eh bien, il est important de voir que tout notre être est mobilisé par notre chemin spirituel et que c'est ainsi que nous pouvons vivre de tout notre être. Et pas simplement d'ailleurs notre chemin spirituel, mais notre chemin, notre vie tout court. Parce que, en fait, lorsque l'on vit un certain degré de profondeur et de présence à soi-même, on constate que toutes nos relations sont transformées. Il y a une certaine façon d'être présent à soi qui fait que l'on n'est plus parasité par soi-même, mais qu'on est attentif à ce qui peut bouger en nous face à l'autre et à la façon dont nous pouvons le rejoindre. Donc, aller vers la source intérieure pour la retrouver, c'est prendre conscience de nos profondeurs à partir, du moins dans le chemin que je vous propose ici, du niveau physique, qui va ensuite nous faire passer par les dimensions affectives et puis mentales. Tout cela dans une perspective spirituelle, puisque nous sommes corps, âme et esprit. Et c'est dans une démarche comme celle-là que nous pouvons arriver au cœur profond. Cœur profond où, lorsque nous sommes présents, à nous-mêmes, nous le sommes également aux autres et à notre Dieu. C'est vrai que notre Dieu ne peut pas nous adresser de signes autrement qu'en nous rejoignant dans notre vie physique, psychologique, spirituelle, à travers notre personnalité, notre biographie, notre passé. Je l'ai dit précédemment, notre identité est unique et notre chemin spirituel est singulier. Personne n'a le même itinéraire que nous. Et la façon dont le Seigneur nous rejoint, c'est justement en nous touchant dans ces différents aspects de notre vie. Vous l'avez certainement déjà expérimenté en vivant telle ou telle expérience psychologique, physique, émotionnelle, qui est aussi corporelle et qui vous ouvre à quelque chose de l'ordre du spirituel. Être présent au divin qui est présent en nous. Comment vivrons-nous cette présence? Qu'est-ce qui permet la relation? D'abord, nous le savons, le moteur le plus important de notre énergie, de notre dynamisme et de nos actions, c'est notre affectivité. Même les personnes les plus cérébrales sont régulièrement touchées, atteintes, mobilisées par leur affectivité. Et je dirais même que les personnes qui en sont le plus dépendantes, ce sont celles qui s'y intéressent le moins. Vous en connaissez sans doute des personnes qui disent « moi, je ne fais pas de sentiments ». Mais pour finir, quand nous les voyons fonctionner, nous voyons bien qu'à tout moment, elles ont des réactions qui sont liées à des sentiments non identifiés. Pouvons-nous exister dans une rencontre avec l'autre sans que notre affectivité soit mobilisée? D'ailleurs, n'est-ce pas un des grands défis de la relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation de parent-enfant ou de maître à disciple, d'enseignant à élève, que d'être conscient des sentiments qui nous habitent, d'être capable de les identifier et, dans une relation d'amitié ou d'amour, de les exprimer, de les partager, même si ce sont des sentiments négatifs, même si ce sont des sentiments dont nous ne sommes pas très contents. Notre être, corporel, affectif, nous met en route. Être présent à nous-mêmes pour mieux vivre la présence aux autres. La qualité de notre présence et de notre conscience de soi va influer sur la vérité de notre relation à l'autre. Et cela n'implique pas forcément que nous ayons fait tout un travail thérapeutique. Je dirais que c'est une question de connaissance de soi et de vigilance. Je vous invite donc à mieux exister pour mieux aimer. Parce que tout ce travail de présence à soi a pour objectif de nous mettre mieux en relation avec les autres. Elle nous permet une réceptivité, une qualité d'écoute, d'accueil, d'ouverture, qui permet une relation profonde. Nous pouvons parler du souffle. Parce que le souffle est certainement ce qui traverse notre être de la façon la plus profonde et la plus radicale, et qui met en branle toutes nos énergies. Nous n'allons pas entrer dans une démarche telle que celle du yoga, où, par exemple, on vous proposera d'harmoniser, d'ouvrir les chakras, qui sont donc ces centres subtils du corps où se diffusent les courants d'énergie, qui sont au nombre de 7, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne, qui est très important dans l'hindouisme, qui nous met en relation avec l'énergie cosmique. Non, ce n'est pas à ce niveau-là que nous allons nous situer. Même si nous pensons que les sagesses orientales nous apprennent énormément de choses sur le fait que notre corps est aussi un centre d'énergie, et que par notre corps nous sommes en relation avec le cosmos, et qu'il y a une interaction continuelle entre l'énergie corporelle et l'énergie cosmique. Ce potentiel énergétique de l'homme n'est pas inconnu des Occidentaux. Nous le retrouvons dans toutes sortes d'approches médicales anciennes. Nous le retrouvons aussi chez les vieux magnétiseurs, tous ceux qui travaillaient sur les énergies pour soigner dans nos villages, et qui étaient des hommes qui avaient un don de perception et qui, pour la plupart, l'utilisaient comme un service, même s'il peut exister des charlatans ou des personnes qui vont, à partir de ce don, chercher peut-être à rentrer avec d'autres entités qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Donc une présence à notre corps est aussi une présence à la nature, est aussi une présence à ce qui nous entoure. Je vous disais que cela fait partie de l'incarnation. Donc il y a plusieurs niveaux dans notre personne. Il y a le niveau corporel, physique, il y a le niveau émotionnel, affectif, et tout cela est unifié, ou peut être unifié, par notre vie spirituelle. Commençons donc à prendre conscience de notre corps, et lorsque nous commençons à le faire comme je vous l'avais proposé lors de l'émission précédente, nous pouvons découvrir parfois qu'il y a des nœuds, qu'il y a des choses qui sont bloquées en nous. Et rien que la prise de conscience de la façon dont nous avons somatisé les tensions, les peurs, les angoisses, par exemple entre les omoplates, ou dans une raideur de la colonne vertébrale, ou dans la nuque, eh bien tout cela nous aide à comprendre que, oui, nous sommes bien des êtres corporels qui gardent en mémoire les chocs, les tensions, et qui ont besoin de se détendre et de se connaître pour pouvoir se détendre. Nous pouvons aussi découvrir que quand nous nous arrêtons, immobiles, respirant calmement, au moment où nous cherchons la détente et le silence, monte soudain en nous telle peur, tel sentiment de tristesse inexplicable, telle angoisse, tel sentiment négatif. Eh bien, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur parce que c'est ce qui nous habite, c'est ce qui fait partie de nous aujourd'hui, c'est ce que nous arrivons peut-être à fuir, mais que nous n'avons pas pu domestiquer, puisque c'est bien présent là, dans toutes les tensions et les nœuds de notre corps. Et en prenant conscience de tout cela, dans une immobilité, dans une perception du corps, nous pouvons apprendre tout doucement à apprivoiser ce qui nous empêche de vivre, ce qui nous empêche de nous déployer, nous apprivoiser nous-mêmes avec nos raideurs, nos blocages, nos refus de la vie, nous accueillir avec nos sentiments négatifs. Il est tellement important de ne pas culpabiliser nos sentiments. Parce qu'un sentiment n'est ni bon ni mauvais. Un sentiment, c'est comme un affect, c'est une réaction superficielle. Un sentiment, c'est ce signal qui me parle de moi et de mes profondeurs. Un sentiment pénible me signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, que pour le moment, peut-être je ne suis pas en relation, ou je suis habité par une inquiétude. Il y a un certain nombre de familles de sentiments, je ne vais pas toutes les nommer, mais il y a en tout cas la peur, la colère, la tristesse, et puis tout ce qui est en rapport avec la joie, la plénitude. Ce n'est pas mauvais d'avoir des sentiments négatifs. De même que ce n'est pas mauvais d'avoir une tension dans le corps. Il n'y a pas à moraliser cela. C'est ainsi que nous sommes maintenant. Là où joue notre responsabilité, c'est dans cet effort d'identifier nos sentiments afin qu'ils nous aident à comprendre où nous en sommes aujourd'hui et peut-être quelles sont les dimensions de notre être que nous ne prenons pas suffisamment en compte. Nous avons peut-être une façon très dure de nous traiter. Il y a peut-être des dimensions en nous qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas accueillies. L'estime de soi, l'accueil des autres, telle parole qui nous a été dite. Alors accueillons ces sentiments négatifs, tâchons de voir à quel besoin ils renvoient, et lorsqu'ils nous envahissent, tâchons simplement d'aller à la rencontre de ce qui en nous manque de vie, manque de lumière, parce que nous sommes tous un mélange de lumière et d'obscurité. Alors, je ne dis pas que ce travail sur le corps et cette perception de soi est la seule façon d'entrer dans un chemin spirituel. Mais je dirais que de nombreuses traditions orientales et occidentales, parce que nous le verrons, en Occident aussi, il y a une grande tradition du corps, de prière par le corps et de conscience de soi par le corps. Eh bien, à travers tout cela, je vais pouvoir peut-être entrer dans une vie de prière plus incarnée, plus existentielle, plus vraie, et à trouver une paix qui va concerner toutes les dimensions de mon être. Nous sommes en train de réfléchir sur l'importance d'intégrer la dimension de notre corps et de nos sentiments sur un chemin spirituel. Je vous ai parlé dans une autre émission du divertissement, de cette dispersion dans laquelle nous sommes très souvent entraînés. Le divertissement peut venir du fait que nous sommes traversés en permanence par toutes sortes d'idées, de pensées qui font que nous sommes toujours hors de nous-mêmes. En tout cas hors de la réalité de notre être enraciné dans le monde d'aujourd'hui. Et nous en connaissons de ces gens qui brassent des idées en permanence, mais qui sont complètement déconnectés de la réalité et de leur émotion. Mais nous en connaissons d'autres qui sont tellement envahis par l'émotionnel qu'ils sont tout autant dispersés, non intégrés et parfois terriblement douloureux par une sensibilité qui n'est pas maîtrisée par des émotions sur lesquelles il n'y a jamais de travail qui a été fait. Il nous faut donc choisir entre l'intériorité et le divertissement, en parcourant un chemin d'intériorité qui est en fait aussi un chemin d'unification. Et ce travail sur le corps n'a pas pour but simplement de chercher un bien-être. Nous savons qu'il existe aujourd'hui énormément de techniques qui nous aident à nous relaxer, à nous détendre, à libérer les tensions. Thérapie par le rire, thérapie par la danse, thérapie par le théâtre, thérapie par la musique. Notre travail sur le corps n'a pas pour but simplement d'être bien, dans une sorte de quiétisme, c'est-à-dire une attitude spirituelle où on se contente simplement d'être installé dans un repos, sans qu'il y ait de véritable projet. Nous serions satisfaits de nous sentir bien. C'est pourquoi je vous disais, je vous invite à exister pleinement pour aimer pleinement, être mieux en relation. Car il y a un réel risque dans ce travail d'attention au corps, aux sentiments, au mouvement des pensées, d'apaisement de tout l'être, il y a un véritable risque simplement de s'installer dans une autosuffisance. Or, s'il s'agit bien d'aller vers cette source qui est là dans nos profondeurs, il faut comprendre que nous ne sommes vraiment en contact avec notre source et nous n'avons vraiment commencé à la libérer que quand elle déborde dans une fécondité qui s'exprime en termes d'amour. Un critère très important quant à la véracité d'un chemin spirituel, c'est d'une part la liberté intérieure par rapport aux revendications continuelles de notre petit moi, et puis un amour de plus en plus gratuit. Je vous propose d'entrer dans ce chemin d'unification, mais d'y entrer avec tout votre être. Et j'aime beaucoup cette image du lotus, qui est le grand symbole de l'Inde. Cette fleur que l'on peut comparer à nos nymphéas ou nos nénuphars, que nous rencontrons dans nos marais, dans nos étangs. Et ce qui est beau dans ce lotus, dans ces nymphéas, c'est l'ouverture de cette corolle vers la lumière, vers la rosée du matin, vers la douceur de l'air, et que l'on peut exprimer dans une position de prière. Vous avez sans doute entendu parler de la position du lotus, qui, dans le fond, est un exercice assez douloureux et difficile, surtout peut-être pour des Occidentaux qui n'ont pas expérimenté cela depuis leur enfance. On peut prendre une position beaucoup plus simple en étant les bras arrondis, une main reposant dans l'autre, dans une attitude d'accueil et d'offrande. Mais ce qui me paraît important dans le symbole du lotus, c'est que le lotus a sa tige profondément enfoncée dans la tourbe, dans l'obscurité des vases et des fonds d'étangs ou de mares. Et que c'est de cette obscurité, et en lien avec cette obscurité, que la corolle monte et se déploie, s'offre à la lumière. Et je trouve que c'est une lumineuse image de la vie spirituelle. Parce que c'est avec toutes nos profondeurs, dans tout ce qu'elles ont d'obscur et de lumineux, que nous nous tournons vers cette lumière dans un chemin spirituel. Nous n'avons pas à renier l'obscurité de notre être. Nous avons à unifier ce que nous avons de plus beau, mais en apprivoisant aussi cette part d'ombre que nous avons tous en nous. Nous unifier à partir de tout ce que nous sommes, d'où l'importance d'identifier nos parts d'obscurité et nos parts de lumière. Mais sans nous appesantir sur ce qui est obscur, j'aime bien cette image que Charles Péguy emploie lorsqu'il montre le pèlerin qui arrive à Chartres, les bottines toutes crottées, et qui dit, eh bien oui, quand il arrive là, à l'entrée de la cathédrale, il se frotte les pieds, il en dégage le plus possible la boue qui est collée, et puis il rentre dans la cathédrale, et puis il pose le regard sur le tabernacle, et puis il ne pense plus à ses pieds. Il faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de se déployer dans une ouverture à cette lumière qu'il tenait. Parce que le poids de l'histoire, des sentiments négatifs, de l'échec, du péché, la culpabilité, tout cela, tout cet héritage, tous ces handicaps, les empêche de faire confiance à la partie la plus lumineuse de leur être. Mais on ne grandit pas en regardant ses pieds. L'arbre grandit en étant enraciné et en ouvrant ses racines, en ouvrant toutes ses branches vers la lumière, vers l'air, vers l'humidité. Alors nous pouvons prendre avec nous ce symbole du lotus sur le chemin que nous allons parcourir. Vous l'avez entendu, dégager la source, de toutes ces strates, des dépôts qui l'ont empêché ou qui l'empêchent de sourdre, déployer la corolle de fleurs. Vous savez, tout cela se fait en douceur. Nous nous engageons sur un chemin de libération de la vie. C'est un choix de vie. Où nous ne nous opposons pas à l'obscurité en nous. Nous ne nous battons pas avec nos obscurités. Nous ne rêvons pas d'être des êtres totalement purifiés et libérés du poids, de la pesanteur, de la vie, de la souffrance, du péché, de tout ce qui ne va pas. Mais nous faisons le choix de la lumière. Nous osons croire dans la plénitude qui nous est offerte. Nous croyons que nous sommes des êtres appelés à la transfiguration. Une des plus belles images de ce qui nous attend lorsque nous sommes engagés sur un chemin spirituel, c'est cette transfiguration que l'on voit sur la montagne à propos du Christ et qu'on retrouve sans cesse dans la tradition orthodoxe. Les orthodoxes mettant beaucoup plus l'accent sur la transfiguration que sur la rédemption, que sur le rachat. Nous tourner vers la lumière qui à la fois est hors de nous et en même temps dans nos profondeurs. Et c'est Grégoire de Nazianze qui disait « Ô toi, l'au-delà de tout, n'est pas tout ce que l'on peut chanter de toi. » Ce Dieu qui nous est infiniment au-delà de nous et qui en même temps s'invite dans nos profondeurs, ce qui nous permet de mieux comprendre la phrase que je vous ai dite « Aimer, c'est être habité. » Alors faire attention à la dimension de notre corps, c'est nous rappeler qu'effectivement, notre corps, c'est nous-mêmes. Et que donc, quand nous faisons l'effort de nous immobiliser et d'être attentifs à ce qui bouge en nous, c'est aussi essayer de prendre conscience que notre corps est infiniment plus important qu'un outil. Comment pouvons-nous faire? Par exemple, si nous voulons prendre une position de prière qui nous aide à vivre l'immobilité, la concentration, la sérénité. Nous pouvons par exemple prendre un petit banc de prière ou simplement prendre une chaise où dans une position confortable nous mettons la colonne bien droite afin de libérer le diaphragme et ainsi dans cette position de laisser la respiration nous parcourir de haut en bas, de bas en haut, dans une grande amplitude. Et dans ce mouvement régulier et profond de la respiration, nous pouvons entrer dans un apaisement et une présence à l'instant. Alors cet exercice que je vous ai déjà proposé dans une autre émission, qui est la prise de conscience de votre corps, vous pouvez rapidement le faire lorsque vous êtes là, la colonne bien droite, assis sur cette chaise ou sur ce tabouret, afin de vous apaiser complètement. Et puis, laissez la respiration vous parcourir. Et dans ce mouvement même de respiration, prendre conscience qu'un don vous est fait. Parce que l'air qui est dans nos poumons, c'est un air qui nous est donné. Je reviendrai sur cette question, mais dans la tradition judéo-chrétienne, on dit bien « Dieu a créé l'homme en soufflant sur lui ». Et donc ce qui pourrait apparaître comme un pur exercice physique, de recherche de bien-être, est en fait aussi un exercice profondément spirituel. Parce que en accueillant l'air dans mes poumons et en le laissant me traverser pour ensuite le rendre dans un acte de confiance parce que l'air va de nouveau m'être rendu, eh bien je peux me recevoir de celui qui sans cesse me crée et me recrée par son esprit. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler de respirer l'Esprit Saint. Dans ce mouvement d'inspiration et de respiration profonde, il y a déjà quelque chose de l'ordre d'un échange d'amour qui se fait. Je me reçois de mon Dieu, je me laisse visiter, je me laisse traverser, je le laisse m'habiter, je me déploie pour qu'il soit chez lui en moi. Alors je vous invite à apprendre, petit à petit, à rester immobile, une colonne bien droite mais sans raideur, le bassin légèrement basculé vers l'avant, le sommet du crâne repoussant comme un poids qui se trouve au-dessus de nous, et en laissant tout se reposer, les bras le long du corps, les mains en forme de coupe, nous poser nous immobiliser, accueillir l'instant, accueillir le souffle, c'est déjà une façon de nous laisser aimer. Et cela, c'est peut-être la plus belle prière.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.